Chapitre 7, le pacte. La voiture de Vaujours à Paris, Pantin, Bondy, Livry, Clichy, Le Vergalant, Montfermeil, etc., arrivait à Livry d'ordinaire à 8h30 sonnant, à moins qu'elle n'avançât ou qu'elle ne retardât, ce qui arrivait 7 fois par semaine. Vers 8h20, on vit entrer dans le bureau d'attente un singulier cortège, composé de 2 hommes, dont l'un avait au dos un appendice de forme oblongue. Il portait une femme malade sur un brancard de feuillage. Un personnage, d'apparence robuste, aux traits réguliers, intelligent et mâle, qui semblait appartenir à la classe aisée, les accompagnait. Ce dernier seul, qui avait nom Monsieur Bruno, et que ses 2 compagnons traitaient avec un respect craintif, est pour nous une figure nouvelle. Dans les 2 porteurs, nous eussions reconnu en premier lieu Similor, ancien maître de danse avec son chapeau gris et sa redingote de peluche. En seconde ligne, le pêcheur Échalot, tournure plus modeste, physionomie plus attachante que son costume de pharmacien ruiné, doté de je ne sais quelle mélancolique auréole. L'un était le père illégitime, l'autre la mère nourrice du jeune Saladin. Quant à la femme malade, dès que le brancard eut franchi le seuil de la salle d'attente, le quinquet fumeux placé derrière la grille éclaira le visage charmant d'Edmé Leber. Elle venait de reprendre ses sens, et ce fut la lumière qui lui fit ouvrir les yeux. Son regard étonné tourna autour de la chambre, comme si elle eût craint d'y rencontrer quelque effrayant objet, sans doute un souvenir confus de sa vision. Quand son œil tomba sur la figure forte et calme de Monsieur Bruno, elle tressaillit, puis elle sourit. « J'ai rêvé, » balbutia-t-elle. Puis, refermant ses yeux que fatiguait la lampe, elle ajouta « Comment se fait-il que vous soyez près de moi ?»« Nous allons causer, ma chère demoiselle, » répondit Monsieur Bruno, « tenez-vous en repos. » Il prit les 2 mains de la jeune fille dans les siennes et les pressa paternellement. Similor et Échalot se tenaient dans un coin du bureau, silencieux et le chapeau à la main. Échalot avait mis sous son bras l'enfant de carton, habitué à dormir dans les positions les plus difficiles. Monsieur Bruno s'approcha du grillage, disant « Je retiens le coupé, s'il est libre, Madame Lefort, sinon il faut que vous me trouviez une voiture sur le champ. » La buraliste consulta son registre et répondit d'un air aimable, en jetant vers Edmé un regard significatif. « Ça vous gênerait d'avoir avec vous un 3e, monsieur Bruno? Les gens de vos jours aiment mieux l'intérieur, et ici nous n'avons rien d'inscrit. » Similor poussa le coude d'Échalot. Monsieur Bruno vint à eux et leur dit « Je n'ai plus besoin de vous. » Ils sortirent aussitôt. Similor passa son bras sous celui d'Échalot, du côté où Saladin n'était pas, et dit « La petite marchande de musique aurait bien pu nous donner à boire. Ah, ça, Bibi, est-ce qu'on va bouder longtemps, nous deux ?»« Cela dépendra de ta franchise, Amédée, » répondit l'ancien pharmacien avec émotion. « J'avais mis toutes mes illusions dans ton amitié. S'il faut s'entre-séparer, j'aimais mieux qu'on se casse quelque chose. Voilà mon idée. » Des bêtises, Bibi. C'est possible, mais je préfère mieux te voir mort que mauvais cœur. » Similor fit la grimace. Bibi, reprit-il d'un ton léger, en fait de quelque chose. Veux-tu casser une croûte? Je n'ai pas faim. Arrosé d'un litre de petit hérissé, bien entendu. Je n'ai pas soif. Ce disant, Échalot prit une mine sévère et ajouta, tu n'as pas seulement donné une caresse paternelle à la créature. « C'est pas des mamours et des singeries qui lui ouvriront l'horizon sur l'avenir, » répliqua sentencieusement Similor. Échalot retira l'enfant de dessous son bras et approcha sa petite figure grimaçante et maigriotte des lèvres de son compagnon, qui lui donna un baiser distrait en disant « Il est bien mignon tout de même. » « Et à quel métier que tu gagnes de quoi lui ouvrir les portes de l'horizon, Amédée ?» demanda Échalot avec un soupir. Amédée retira son bras et prit une pose pleine de fierté. Ma vieille, déclama-t-il, je me moquerais pas mal de m'aligner avec toi à n'importe quelle arme ou dans un jeu d'adresse. J'ai déjà eu des raisons, aujourd'hui, avec un officier de marine, comme quoi nous nous retrouverons postérieurement au champ d'honneur. Mais je ne veux pas que tu m'accuses de feignant et de mauvais sujet. Il y a des mystères plein le quartier. Ce n'est pas un crime de s'y faufiler dans une position précaire comme la mienne, avec un petit, sans feu ni lieu, et l'ignorance où je suis de ma propre famille. J'ai donc réfléchi, comme il suit. Je me suis dit, Amédée, tu ne peux pas toujours être à charge de l'amitié de celui qui t'abrite sous son toit modeste. Faux percé, tu as l'âge voulu. Alors je pouvais monter une petite affaire comme la tienne, pas vrai, en concurrence, plutôt mourir que de faire du tort à un ami. J'avais donc le choix entre Monsieur Bruno, la porte-cochère à côté, Monsieur Lecoq au premier, et les jeunes gens au quatrième qu'on entend parler de crime à travers la cloison. Tous mystères. Monsieur Bruno m'a dit de repasser. Monsieur Lecoq a pris mon nom sur son grand polisson de registre, où nous sommes déjà couchés, toi et moi, je t'en préviens. Que fait-il, cet homme-là? Vas-y voir, je te parie une chose que ça finira mal. Restait la jeunesse du quatrième, j'y ai pénétré un matin, que j'entendais qu'il voulait tuer la femme. Quelle femme? Demanda Échalot, tout pantelant de curiosité. Il faut du reste renoncer à peindre l'attention passionnée qu'il mettait à écouter la confession de son ami. Saladin le gênait un peu. Il essaya, mais en vain, de le mettre dans sa poche. « Oui, quelle femme ?» répéta Similor, en haussant les épaules, comme un devineur de charade qui jette sa langue au chien. « Dis-le-moi, si tu le sais. Tous mystères !» Il y a donc que ça n'est pas beaucoup plus beau chez eux que chez toi, nonobstant qu'ils fument des cigares de cinq et que ça porte du beau linge. Ils sont trois, des fils de famille, et pas d'argent, qui s'étaient associés pour bambocher. Et il y en a un, Monsieur Michel, qui commence à vivre à son appart, ayant déniché une affaire ou un trésor, que Monsieur Maurice et Monsieur Étienne n'y voient que du feu. Alors je n'ai pas osé parler de la femme tout de suite. J'ai dit seulement, je peux rendre des services en cachette, au-dessus du préjugé. Ça les a fait rire, au prime abord. Et aussi que j'ai professé l'art de la danse des salons. Ils rient de tout. Nonobstant, j'ai été accepté. On me paiera sur la première affaire. Quelle affaire ? Interrogea encore Échalot, qui, de guerre lasse, remit Saladin sous son bras. Cherche, Bibi. Et que feras-tu chez eux? Généralement tout. As-tu des gages? Tu vas finir. Est-ce que je ressemble à un domestique? On me donnera 100 francs sur l'affaire, voilà. Mais quelle affaire? Et fouille, puisqu'on te dit que c'est des secrets. Échalot ôta son vieux chapeau de paille pour essuyer d'un revers de manche la sueur de son front. Ça explique du moins, pensa-t-il tout haut, l'abandon du petit au berceau et de ton ami, momentanément. Et c'est bien vrai que dans le quartier, les mystères s'affourmillent. Mais t'a-t-on touché des allusions à la chose de tuer la femme? Pas à l'ombre. L'as-tu entreaperçu chez eux? Je lève la main qu'elle n'y est pas. Où est-elle? Voilà, c'est les mystères. Et qu'as-tu fabriqué dans la maison jusqu'à présent? Pendant 3 jours, répliqua Similor avec une sorte de pudeur, je fais comme qui dirait le ménage, les bottes, pas mal de commissions. Pour débuter, pas vrai? Quelle commission? Tailleur, fruitier, restaurant. Et c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Mais avant-hier, la chose a commencé. Ici, Saladin grogna. Il n'était pas à son aise. Échalot lui recommanda d'être calme, et se rapprochant d'un mouvement fiévreux, il dit « Voyons voir si tu t'épanches avec sincérité. » Avant-hier, poursuivit Similor, le plus jeune, Monsieur Maurice, un joli cœur, oui, me donna une lettre avec 2,50 francs pour le voyage. La lettre n'avait pas d'adresse. Il s'agissait de la porter ici, près... Au château, interrompit Échalot, en fourrant le bec de Saladin sous son aisselle pour l'empêcher de crier. Approchant, mais tu m'avais donc suivi? Jusqu'au bateau seulement. Pour qui la lettre? Mystère. À qui l'as-tu remise? À personne. Comment vas-tu dissimuler? Parole sacrée, je l'ai déposée sous une grosse pierre qui est en plein champ, à une centaine de pas en avant dans la forêt. La tête d'Échalot tomba sur sa poitrine. Un drame de l'ambigu comique ne l'aurait pas jeté dans de plus laborieuses émotions. Et après, fit-il, tandis que Saladin râlait tout doucement. Rien hier, reprit Similor, ce matin, second message. Une lettre encore? Non, un mot du plus grand, monsieur Michel, celui qui fait la noce. Ah, un crâne brin d'amoureux tout de même. Quel mot? Bibi, répliqua solennellement Similor, sois maudit dans l'éternité si tu trahis ma confiance. Je bavarde comme un jacquot parce que ça m'agace d'être toujours suspect vis-à-vis de toi, mais je risque mon existence et celle de mon enfant. Quel mot? Répéta le bouillant Échalot. Voilà l'histoire. Monsieur Michel m'a dit, tu t'arrêteras au débarcadère de Monsieur Schwartz et tu te promèneras tranquillement les mains dans les poches jusqu'à ce que tu trouves un domestique en livrée grise avec des boutons d'argent qui regarde couler l'eau. Oh, je l'ai vu! S'écria impétueusement l'ancien pharmacien. Les boutons, la livrée, et il regardait couler l'eau. Le mot, ma vieille, dis-moi le mot. Ah, Saladin, tu vas te taire. Fera-t-il jour demain? Prononça Similor dans l'oreille de son compagnon. Hein? Fit celui-ci, qui crut avoir mal entendu. Fera-t-il jour demain? Pas davantage. Et la réponse du gros domestique? Peut-être, ça dépend. Ah, bah, le gros domestique ne savait pas s'il ferait jour demain. Il fallait qu'il s'informe préalablement. Auprès de qui? Connais pas. Il m'a dit, jeune homme, flânez et contemplez le paysage au coucher du soleil, et ne vous impatientez pas si je suis un peu long à vous apporter la réponse. J'ai donc flâné dans le pays, qui est agréable. Après la nuit tombée, la livrée grise est revenue et m'a dit, en prenant une prise sans m'en offrir, jeune homme, il fera jour à l'endroit ordinaire ce soir sur les 10 heures. Jour, à 10 heures du soir, se récria Échalot. C'est les mystères, repartit Similor. À sa manière, Saladin, suffoqué, criait, à la garde! Mais on ne faisait pas attention à lui, tant la situation était saisissante. Échalot essaya vainement de lutter contre son émotion. Il se frappa les yeux à tour de bras, et puis, obéissant à un irrésistible élan, il rejeta en bandoulière Saladin, qui n'était pas complètement asphyxié, et pressa Similor sur son cœur, inondant de douces larmes le paletot de peluche frisée. Oh, Amédée! S'écria-t-il, avec un véritable spasme d'attendrissement. Je t'ai suspecté, c'est vrai, je te demande excuse. Ah, quand tu rentrais, tu sentais le café, quoique père de l'enfant, et je me disais, il se communique des douceurs seul à seul, en dehors de l'association. J'ai voulu t'éprouver, tu en es sorti avec la victoire. La grandeur d'âme de Similor était en jeu. Il n'abusa pas de son triomphe. Allons, allons, ma vieille, dit-il, ne te fais pas de mal. Ceci te servira de leçon à ne pas te livrer à tous les égards de l'aveugle imagination dans ta jalousie. Reçois-en mon serment, interrompit Échalot. J'ai trop souffert. J'étais là, au bord du canal, à t'attendre, moi, que l'espionnage n'est pas du tout dans mon caractère généreux. Je t'ai vu venir, je me suis approché par derrière la haie. Si tu m'avais trompé, vois-tu, il y aurait eu un malheur. Mais tu ne m'as pas trompé. J'ai entendu les paroles propres du domestique, qui a l'air d'un porte-sacoche de la banque. Peut-être ça dépend. J'ai vu qu'il s'en allait et que tu attendais, j'ai fait les 100 pas derrière la haie, j'avais bien du mal à empêcher le mioche de crier. Et quand le gros Gris-de-fer est revenu, c'est la vérité qu'il a proférée ce soir sur les 10 heures. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, Amédée, coupa-t-il brusquement, le jour qui se mêle avec la nuit dans leur cachotterie? Similor sourit en homme qui voit plus loin que le bout de son nez. Bibi, répondit-il, c'est la bouteille au noir que le diable y perd son latin. Tu as mis Saladin la tête en bas, sais-tu? Oh, rien ne les incommode à cet âge-là, fit observer Échalot. Similor retourna l'enfant qui se débattait convulsivement et convint de la justesse de l'observation. Il reprit. Le troisième dessous, quoi, avec truc et mécanique des roues de la haute, qui a des manigances pleines de subtilités, un mot de passe et société secrète des francs-maçons, pas vrai, qui ne risque rien à rien. Je vote pour qu'on pique une tête là-dedans au travers des ramifications que j'ai rencontrées jusque sur le bateau-poste. La moitié de Paris en mange. Donne-toi la peine d'entrer dedans avec moi. Ça y est, reprit Chalot, si tu en prends, j'en use, top là. Top là, nous jurons fidélité, jusqu'à la mort, Amédée. À quoi? À la chose de tirer notre épingle du jeu pour nous et pour pousser le petit dans sa carrière. À la lueur pâle qui descend des étoiles, ils étendirent les mains, sans parti pris d'imiter la pose des Horaces. La route était solitaire. Ciel, tu fus seul témoin avec Saladin. Ce sont des instants solennels. On ne signe pas un tel pacte sans être profondément ému. Échalot et Similor plaisantaient rarement. Ils venaient de fonder une société dont le but, assez vague, était de pêcher en eau trouble, au milieu d'un fantastique océan dont ils s'exagéraient sans doute et la richesse et les dangers. C'étaient deux poètes au cœur chaud, à l'imagination naïve, deux fils de l'éternelle forêt de papier mâché qui ombrage le mélodrame, deux sauvages de Paris. Le théâtre leur avait enseigné des sentiments tendres, et cette agréable grammaire dont ils faisaient usage, dédaignant la rue des bonnes langues du peuple qui va, hélas, se perdant chaque jour dans je ne sais quel pathos idiot. Nous n'accusons pas le théâtre de leur avoir inoculé le péché de paresse, mais ils détestaient le travail et, croyez-moi, quand vous rencontrez dans Paris des âmes sensibles qui ne veulent pas travailler, surveillez leurs mains et protégez vos poches. Un silence recueilli suivit le pacte conclu. Tout en partant, les deux amis s'étaient écartés du bureau. Un bruit sourd et lointain les arrêta dans leur marche. « La voiture, dit Similor, je me lâcherai volontiers d'une place d'impérial pour ne pas éreinter mes chaussons. »« Saladin aime bien rouler, répliqua Échalot. Qu'as-tu en caisse ?»« 20 sous de goujon. Moi 15, trop court. » La porte d'une maison s'ouvrit derrière eux, et une voix s'écria « Voyons, voyons, Madame Champion, un peu de vivacité. Avez-vous le poisson? Félicité, la lanterne. Ah, je n'aurai pas mon coin, vous verrez. » La porte s'éclaira aux lueurs d'une vaste lanterne à anse que balançait une servante de mauvaise humeur. Derrière elle sortit une bonne grosse dame, embarrassée de paquets, soufflant, se hâtant avec peine et trébuchant dans ses jupes. « Toujours le même, Adolphe, pleura-t-elle, attendre au dernier moment alors qu'il est si facile d'entrer au bureau 2 minutes d'avance. Ai-je mon mouchoir, félicité, fermez bien le garde-manger, rapport aux insectes. Vous verrez pour qu'on vous donne un chat. S'il est coureur, je n'en veux pas. » « Eh, vite, vite, dit Adolphe, qui avait pris les devants. Tu as le poisson, Madame Champion ? Ai-je le poisson, félicité ? » Adolphe se retourna. La lumière de la lanterne le prit comme en une gloire, éclairant de la tête aux pieds le magnifique pêcheur des bords du canal qui tentait un brochet dans les 14 livres. Il marchait, libre et sans charge aucune, muni seulement d'une riche canne de pêche dernier modèle, tandis que cette déplorable Madame Champion ployait sous le poids des colis. Notez que les Parisiens condamnent amèrement les mœurs des pays barbares où les femmes travaillent à la terre. Madame Champion avait nom Céleste, elle pesait 202 livres à la dernière fête de Saint-Cloud. À la vue de Madame Champion, Échalot eut un cri joyeux. « C'est le voisin, dit-il, en remontant Saladin jusqu'à sa nuque, on va rouler. » Et comme si Milor ne comprenait pas, il lui lâcha le bras en ajoutant « Laisse faire, Amédée. Il faut s'aguerrir à la ficelle dans notre nouvelle affaire. Je vais en câbler une et nous aurons nos 2 places à pas cher. Mais tiens, Saladin. » Il se débarrassa de son fardeau pour aborder le beau pêcheur et poursuivit, chapeau bas. Bonsoir, bourgeois. C'est donc votre épouse qui porte comme ça ma petite friture? Monsieur Champion fit un saut de côté comme si une roue lui eût écrasé le pied. « Que faites-vous là, vous » murmura-t-il en pressant le pas vers le bureau. Je fais comme vous, bourgeois, je retourne à mes petites affaires. Ça valait tout de même un sous-pièce, dis donc, pour un amateur. Nous avons débattu le prix, objecta monsieur Champion. Vous êtes payé, bien le bonsoir. N'empêche, insista Échalot, qui le suivait comme son ombre, que des dames, ça connaît mieux le prix des objets, et que, si votre épouse savait... Adolphe! Cria madame Champion, épuisée. Attends-moi donc! Adolphe s'arrêta court. Il était rouge de colère. Il prit 3 pièces de 20 sous dans son porte-monnaie et les donna en disant « L'ami, vous profitez d'une situation délicate. Vous êtes un malhonnête homme. » Il tourna le dos. Échalot resta tout étourdi et le sang lui monta au visage. Mais il n'est pas bien large le Rubicon que Similor et lui venaient de passer. Son récit fit rire Similor. C'est là une dangereuse gloire. Similor lui dit, en lui rendant Saladin, « Ah, vieux, te voilà qui te forme !» Ils montèrent tous les trois sur l'impérial, sans remords. Sur l'impérial, ils furent gênés par une brouette en osier qui ne pouvait tenir sous la bâche. Avant de monter, ils avaient reconnu, dans le panier qui se balançait au-dessous des ressorts, le chien de boucher de monsieur Mathieu. « Ah, voilà encore quelque chose de farce, » dit Similor, « l'attelage de 3 pattes. C'est donc 3 pattes à coucher au château. Mystère. » Le coupé se trouvait vide, comme l'avait pronostiqué la buraliste. Monsieur Bruno y prit place à côté d'Edmé Leber, qui put franchir le marchepied avec un peu d'aide. Il n'en fut pas de même de madame Champion et de ses paquets. Il fallut beaucoup d'aide. Céleste avait encore gagné depuis la dernière fête de Saint-Cloud. Il y avait dans l'intérieur des gens de Vaujour qui cherchaient à défendre leur place contre l'envahissement des gens de Livry. Tout le monde, excepté Adolphe, emportait des paquets. La lutte fut rude, mais décisive. Gens et paquets se casèrent après quelques mots aigres, littère refermée, laissa l'intérieur bourré comme un canon. Sur la banquette, Échalot avait payé 2 cigares et le tabac de la régie, achevant d'engourdir le victime de leur association immorale. « Faut s'aguerrir à la ficelle, conclut, on deviendra gras comme les autres si on ne mange pas son pain sec. » Et toujours, tout est à Saladin, espoir de cet étrange ménage. Contre toutes les lois de la nature, c'était Échalot, un étranger, qui montrait ici un cœur de mer. Saladin, mièvre produit, ressemblait à ces brins d'herbe qui croissent dans les fentes d'une pierre. La vie lui était dure, il était ballotté, cahoté comme un colis, et dormait bien souvent les pieds en l'air. Un jeune chien serait mort à la place de Saladin, mais Saladin ne se portait pas trop mal. Tout en fumant son cigare, Échalot lui fourra dans le bec, pour employer son style, le goulot d'une petite bouteille de mauvaise mine, et Saladin consolé pompa avec délice. À l'étage au-dessous, dans le coupé, monsieur Bruno s'effaçait de son mieux pour laisser plus de place à sa jeune compagne, demi-couchée sur les coussins, et disait d'un ton d'autorité, que pouvait expliquer son âge et le service rendu, « Ma chère enfant, je ne veux point de réticence. Il faut que je sache au juste tous les détails de votre visite à madame la baronne Schwartz. »